du genre dans l'histoire, saison 2, épisode 6, Femmes, genre et migration.
Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes un peu attentive à l'actualité, il ne vous aura pas échappé que la question des migrations tient une place essentielle dans l'actualité nationale, européenne et mondiale. Pourtant, l'histoire nous apprend que la migration est un phénomène aussi ancien que l'humanité, que le déplacement des hommes et des femmes est un mouvement qui a toujours existé et que les économies du monde entier en ont longtemps profité, alors même que les frontières ont cherché à le contrôler et à le criminaliser. Aujourd'hui, alors que les frontières de l'Union européenne et des États-Unis se ferment et que la xénophobie fleurit, que les politiques migratoires sont de plus en plus restrictives, il nous a semblé nécessaire de concentrer notre attention sur la question des migrations féminines et du genre des migrations. En effet, il est rare qu'on distingue les parcours migratoires masculins et féminins. Au contraire, comme souvent, on applique au mot migrant le masculin générique, gommant la spécificité des parcours migratoires féminins et masculins. Par ailleurs, si rien n'interdit dans les programmes scolaires de s'intéresser aux migrantes autant qu'aux migrants, l'histoire et la géographie des migrations se font souvent au masculin. Nous allons donc vous prouver l'intérêt de faire apparaître les femmes et le genre dans les migrations grâce à nos deux invités que je suis absolument ravie de recevoir. L'historienne Linda Guéry, spécialiste du genre des migrations dans le passé, autrice de l'ouvrage « Le genre de l'immigration et de la naturalisation, l'exemple de Marseille » entre 1918 et 1940, un ouvrage paru en 2013. Et la géographe Camille Schmoll, qui a fait paraître il y a 2 ans un ouvrage essentiel, « Les damnés de la mer », dans lequel, à travers le parcours migratoire de Julienne, elle nous permet de comprendre la spécificité des parcours migratoires féminins. Au-delà des récits de migration, il s'agit de comprendre en quoi, en considérant le genre des migrations, on pourrait repenser les politiques d'accueil en lien avec les besoins des migrants, hommes et femmes. Pour les enseignants qui nous écoutent, nous verrons dans la seconde partie du podcast en quoi la problématique de genre appliquée aux migrations peut vous permettre d'enrichir vos cours d'histoire et de géographie. Bonjour Linda, bonjour Camille. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, s'il vous plaît ?
Bonjour, donc je m'appelle Linda Guéry, je suis historienne associée au LARA, au Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes, et membre de l'Institut Convergence Migration. Donc actuellement, je travaille à l'INED sur les pertes et les acquisitions de nationalité dans le cadre de la décolonisation. Mais mes recherches portent aussi sur la séparation des femmes et le regroupement familial, en particulier pendant la période de l'entre-deux-guerres. Et j'enseigne aussi dans le master migration, donc avec des étudiants et des étudiantes de Paris 1 et de l'EHESS avec Camille.
Bonjour, bonjour Cécile. Je suis Camille Schmoll, je suis géographe et je suis directrice d'études à l'EHESS, membre d'un laboratoire de recherche géographicité, qui, comme son nom l'indique, est un laboratoire de géographie, et de l'Institut Convergence Migration, tout comme Linda. J'enseigne aussi les migrations au sein du Master Migration, tout comme Linda, et en particulier la géographie des migrations. Et mes recherches portent sur le genre et les migrations féminines, dans l'espace méditerranéen en particulier, donc à la fois au Maghreb et en Europe du Sud, et également plus largement sur les questions de mobilité, de déplacement, de circulation.
Alors justement, Camille, tu démarres avec tout de suite, on est dans le bain du vocabulaire employé dans les migrations. Alors comment est-ce qu'on peut définir une migration au sens géographique ?
Alors au sens géographique, on peut parler de migration à la fois pour des déplacements résidentiels à l'intérieur d'un pays ou des déplacements internationaux. Au sens, disons, classique, administratif, hein, qui nous permet aussi de définir un peu ce qu'est un ou une migrante, on utilise souvent la définition des Nations Unies, qui permet aussi d'avoir des bases de données internationales, en fait, et qui définit la migration comme un déplacement, un changement de résidence de plus d'un an entre deux pays. Donc il est vrai qu'en général, quand on se réfère à cette définition, en tout cas, on se réfère plutôt à la migration internationale, mais au sens large, on utilise aussi le terme de migration pour définir des déplacements à l'intérieur des pays.
Linda, est-ce que dans le passé, on utilisait le même mot ?
Alors, toutes les périodes historiques ont connu des migrations de plus ou moins longue distance. Donc c'est sûr, après, avec l'arrivée des frontières, les politiques migratoires, donc les catégories peuvent changer dans ceux qui définissent les personnes qui traversent les frontières. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise davantage le terme de migration, de migrante ou de migrant. Il recouvre des possibilités assez importantes pour étudier en fait la complexité des parcours qui ne sont pas forcément d'aller d'un point A à un point B d'un pays dans un autre pays. Il y a aussi des allers-retours, des va-et-vient, des migrations qui commencent souvent à l'intérieur d'un pays et ensuite on va plus loin, on franchit une frontière. Donc le terme de migrant-migrante aussi a été beaucoup employé dans les années 20 et 30, là aussi par des acteurs en particulier qui étaient des acteurs et des actrices à l'échelle internationale qui voulaient dépasser une définition nationale de la migration et ne pas parler des migrants ou d'immigrants, qui étaient les termes employés à l'époque, mais de migrants. Donc ce terme était aussi beaucoup employé à l'échelle internationale pour des acteurs de la réforme sociale dans les années 20 et 30.
Mais en même temps, il est devenu ce terme migrant, il est entré dans le vocabulaire commun et j'ai envie de dire médiatique, surtout au moment de la crise migratoire de 2015-2016.
Absolument, en fait, il est entré assez récemment en fait dans le vocabulaire politique et médiatique. Et c'est vrai que cette entrée-là, elle a été un peu déstabilisante pour nous qui faisons de la recherche sur ces questions-là, parce que pour nous, c'était plutôt un terme, je ne veux pas dire positif, mais c'était un terme qui permettait, comme l'a dit Linda, de désigner le fait que tout immigré était aussi un émigré, pour paraphraser Abdelmalek Sayad, le grand sociologue des migrations. Et donc, pour nous, depuis les années 90, j'ai envie de dire dans la recherche, ce terme-là de migration, il nous permettait justement de sortir de cette opposition entre immigration et émigration, et comme l'a dit Linda, d'insister sur le caractère parfois temporaire, parfois circulatoire, sur le fait que les personnes ne coupaient pas nécessairement le lien avec leur pays d'origine en étant dans une trajectoire migratoire. Et tout ça, pour nous, c'était un terme beaucoup plus riche en fait que le terme d'immigré, le terme de migrant. Sauf qu'à partir des années, effectivement, 2000 et en particulier à partir de 2015, on retrouve dans les médias, dans les discours politiques, ce terme de migrant avec une dimension extrêmement dépréciative. Et depuis lors, je trouve qu'on est... On est assez mal à l'aise, en fait, parce que moi, de mon point de vue, ce terme a encore une pertinence scientifique, il est important, il est heuristique, et en même temps, la façon dont on désigne les migrants dans l'espace public, dans le discours public, fait qu'il est de plus en plus embarrassant pour les chercheurs. Donc c'est un petit peu compliqué, mais moi je m'en tiens encore à la définition administrative de l'ONU, qui me permet de me raccrocher au terme, et donc quand j'en parle avec mes étudiants, j'insiste sur le fait que ce terme-là peut aussi être utilisé comme un terme relativement neutre, à condition qu'on inclue dans cette catégorie de migrants aussi des personnes plus privilégiées et pas seulement les personnes qui traversent les frontières par des voies dites irrégulières.
Alors justement, Camille, c'était exactement là que je voulais en venir. Il me semble important de faire le point sur la question de l'immigration légale et clandestine, sur les différents statuts des migrants, et en particulier le statut de réfugié, la question de la demande d'asile. Donc, d'un statut à l'autre, est-ce que nous parlons des mêmes hommes et des mêmes femmes ?
Alors, la question des catégories, quand on parle des migrations, elle est extrêmement complexe. On pourrait y passer beaucoup de temps. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des catégories administratives, des catégories juridiques, des catégories scientifiques, et que tout cela fait que c'est relativement inextricable en très peu de temps. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas naturaliser les catégories. C'est-à-dire que, par exemple, quand on entend parler dans le discours public, médiatique, de migration clandestine, illégale, irrégulière, on ne naît pas irrégulier et on n'est pas voué à rester irrégulier toute sa vie. C'est-à-dire qu'au fil de la trajectoire, les choses vont évoluer. Et par exemple, je voudrais, pour illustrer cela, citer un travail qui vient de sortir, qui me semble extrêmement intéressant, qui montre que les personnes qui, ces dernières années, ont traversé les frontières de l'Europe de manière irrégulière, c'est-à-dire les personnes qui sont comptabilisées par l'agence Frontex comme étant des migrants irréguliers, c'est-à-dire qui arrivent sans visa, en gros, hein, qui traversent la Méditerranée, qui traversent les Alpes, sans visa. Ces personnes-là, elles ont beaucoup de chances de devenir, à un moment donné, des réfugiés. C'est-à-dire qu'elles vont passer d'un statut irrégulier à un statut régulier et qu'elles ont en quelque sorte aussi une légitimité à être régularisées puisqu'elles vont être réfugiées. Donc ça veut bien dire qu'au fil de la trajectoire, cette position peut évoluer. Et de même, et ça je vais laisser Linda en parler parce qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi, mais du point de vue historique, cette dimension-là d'irrégularité, elle a beaucoup évolué aussi selon les périodes. N'est pas les mêmes profils, entre guillemets, peuvent correspondre à des profils très différents du point de vue juridique ou administratif selon les périodes.
Tout à fait. Au niveau historique, la question des papiers devient très importante dans les années 20. Donc c'est à partir de la Première Guerre mondiale que on met les politiques, en tout cas dans le cas français, mettent en place la carte d'identité d'étrangers et d'étrangères, qui est définie le droit au séjour de ces personnes et le droit au travail de ces personnes au sein d'une même carte. Donc j'ai pu étudier l'arrivée de ces cartes-là, des personnes qui devaient avoir des papiers, des contrôles dans les lieux de travail, par exemple, pour vérifier la légalité, l'illégalité des personnes. Ce que j'ai pu voir, si on revient à la question du genre et des femmes, c'est qu'il y a plus de femmes sans papiers. J'ai pu le remarquer dans mes travaux, en tout cas dans les années 20 et 30, de par leur invisibilité. Quelque part, elles profitaient un peu de cette invisibilité pour échapper aux papiers. Et lorsqu'elles se font interpeller sur cette question-là, j'ai pu lire des lettres où elles disent moi, je n'ai pas de papier. Je pensais qu'en tant que femme, je n'avais pas besoin d'avoir de papier. Elles disaient, c'est pas pour les hommes. C'est mon mari, pour les femmes mariées, qui devait avoir des papiers. Mais moi, je croyais que c'était seulement lui qui devait en avoir. Donc, on peut voir là aussi un genre du sans-papier qui peut être étudié. Je ne sais pas si ça a été étudié aujourd'hui au niveau de l'illégalité, en tout cas, qui est une frontière assez floue. Effectivement, on peut arriver avec des papiers, perdre des papiers, on peut devenir illégalisé. Donc, certains chercheurs et même militants utilisent ce terme de personne illégalisée. Donc, voilà.
Alors, pour rester sur cette question du statut, c'est vrai qu'on a tendance à un peu évacuer l'importance du nombre de migrants qui sont légaux, qui entrent dans les différents pays avec des visas, qui viennent pour travailler et qui ne représentent finalement aucun espèce de problème dans les pays dans lesquels ils sont accueillis.
Oui, tout à fait. Bah, la catégorie de migrants ou migrantes privilégiées commence à être étudiée par la recherche. Donc le fait de prendre cette catégorie-là en compte permet d'étudier les inégalités en fait, parmi les migrants. Certains migrants, donc on n'appelle pas migrants d'ailleurs, mais selon la définition de l'ONU, donc c'est bel et bien des migrants, on les appelle expatriés ou d'autres noms, sont perçus comme minoritaires alors qu'en fait ils constituent la grande majorité des migrants aujourd'hui à travers la planète. Donc beaucoup de femmes, donc effectivement, qui sont qualifiées et très diplômées parmi ces migrants internationaux.
Pour moi, c'est parmi les travaux de recherche actuels sur les migrations, il y a vraiment tout un courant qui se développe autour de nombreux travaux sur ces migrations privilégiées qui est passionnant parce que ça montre en fait le pouvoir, ne serait-ce que de la nationalité et du fait de posséder telle ou telle nationalité, tel ou tel passeport, sur la liberté de s'installer à l'étranger, de circuler. Et donc on voit bien qu'effectivement, dans ces migrations privilégiées, on a beaucoup de femmes expatriées, que ce soit des femmes qui suivent des maris expatriés ou des femmes qui partent seules ou qui sont initiées aussi de regroupement familial. Et puis l'accès à des papiers, à un passeport, c'est aussi la possibilité en fait d'avoir des parcours migratoires qui sont beaucoup plus ancrés dans des formes de circulation. Et donc ça, on le voit très bien dans ces migrations privilégiées. Je pense au travail par exemple de Brenda Le Bigot qui a beaucoup travaillé sur les personnes retraitées qui aujourd'hui, françaises, circulent entre le Maroc et la France. Et qui vivent des existences authentiquement binationales dans la circulation grâce à ce statut privilégié de pouvoir circuler.
Alors c'est vraiment intéressant de voir la diversité de ces statuts et de ces situations vécues par des gens qui sont tous des migrants. Et ce qui est frappant aussi, c'est comment dans le discours politique, finalement, on va toujours invisibiliser les migrants privilégiés ou même non privilégiés, mais qui ont un emploi, qui ont un statut légal, etc. C'est comme s'ils n'existaient pas. Et on ne cesse de stigmatiser tous ceux qui sont dans des situations difficiles, en fait. Alors, restons dans les généralités. Moi, j'aurais bien voulu savoir combien il y a de migrants à l'échelle mondiale.
Alors, en 2020, selon les statistiques de l'ONU, il y a 281 millions de migrants dans le monde, dont 48% de femmes. Donc en Europe, un peu plus, 51,6%, et un peu moins, par exemple, en Asie, 41,8. Donc, ça représente 3,6% de la population mondiale, ce qui est en fait assez peu. Parmi ces migrants-là, à peu près 12% qui ont le statut de réfugiés. Donc là aussi, il faut bien faire attention aux catégories statutaires. Donc il y a un statut de réfugié qu'on obtient, qui est là une catégorie différente de la catégorie de migrants comptabilisée par l'ONU. On parle de féminisation de migration depuis les années 90, comme s'il y avait une immobilité supposée des femmes avant ces années-là. Mais si on remonte un peu dans le passé, donc dans les années 60, déjà, il y avait près de 47% de migrantes parmi les migrants à l'échelle du monde, ce qui était déjà beaucoup. Et si on remonte plus loin dans le passé, au recensement, par exemple, puisqu'on comptabilisait les étrangers, là aussi une autre catégorie donc, de nationalité, en France, les femmes représentaient environ 40% d'étrangers recensés depuis la fin du 19e siècle.
Donc on a des migrations féminines qui n'ont rien de nouveau.
Effectivement, on peut remonter très loin dans le passé, donc même on peut remonter à la préhistoire. En fait, les hommes et les femmes ont toujours migré. Donc on peut remonter à la première sortie d'Afrique des hominidés il y a 2 millions d'années, la deuxième sortie d'Afrique avec Homo sapiens, il y a 100 000 ans, qui est sorti et qui s'est installé donc dans tous les espaces du monde de manière assez fulgurante à ce moment-là. Donc on parle de diffusion assez lente, de migration assez lente, donc de dizaines de kilomètres par génération. Donc c'est un sous-groupe qui se déplace à l'intérieur d'un groupe installé qui va un peu plus loin. Donc tout ça s'est fait dans la durée de manière extrêmement longue, mais après dans l'Antiquité avec le phénomène d'urbanisation. Donc là aussi une intensification des migrations, au Moyen-Âge avec le développement économique, à l'époque moderne des migrations liées au travail également. La question des traites aussi, qui est un type de migration forcée, qui a déplacé des dizaines de millions de personnes depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Et à l'époque contemporaine, donc là aussi des migrations assez importante, donc pour différentes raisons, économiques aussi, où des dizaines de millions de personnes européennes sont parties dans différentes régions du monde, en particulier en Amérique du Nord et du Sud, mais aussi des migrations internes à l'Asie, donc qui ont été là aussi travaillées par un historien en particulier. Donc fin du 19e, environ 100 millions de personnes ont migré pendant cette période-là, au tournant du 19e et 20e siècle.
Je voulais juste peut-être ajouter qu'il n'y a pas de féminisation des migrations, mais par contre, il y a certainement une féminisation du regard et aussi une lutte acharnée de la part des historiennes pour faire reconnaître la part des femmes dans de nombreux domaines, mais c'est particulièrement vrai en ce qui concerne les migrations. Et donc, on peut considérer que ça fait une vingtaine d'années, ou même un peu plus, que des femmes historiennes, en particulier, je pense, en démographie historique, ont mis à jour la part des femmes dans ces migrations. Pendant très longtemps, les migrations qui ont été évoquées par Linda étaient considérées comme des migrations masculines. Et ce n'est que très récemment, finalement, que grâce à des travaux extrêmement pointus et importants de démographie historique qu'on a pu réaliser. Et ça, c'est lié au cliché de la femme immobile, hein, au stéréotype toujours qui accompagne cette idée de la femme qui attend. Et je pense à une publication récente aussi sur les chasseurs-cueilleurs, qui est extrêmement intéressante, qui montre qu'en fait, les femmes étaient tout aussi chasseuses et cueilleuses que les hommes. Simplement, nos stéréotypes, ça c'est une publication scientifique, hein, mais nos stéréotypes sur la division du travail sont telles qu'on était resté à cette idée que c'était l'homme qui allait chercher la nourriture, les moyens de subsistance à l'extérieur, et la femme qui attendait patiemment au foyer ou dans la caverne que l'homme revienne.
Alors ça, c'est un stéréotype qui a vraiment la vie dure.
Ouais.
Alors j'aurais une question à poser aussi sur les politiques migratoires. En fait, je me demande en quoi les politiques migratoires finalement ont soit favoriser les déplacements des populations, soit on peut les bloquer, les ralentir.
Alors, tout ça dépend du contexte, du moment, des groupes. On ne peut pas généraliser vraiment. Alors, est-ce qu'il y avait dans la loi des distinctions hommes-femmes dans les politiques migratoires ? Donc, il y a effectivement dans certaines lois, par exemple aux États-Unis, en 1875, le Page Act interdit l'immigration aux femmes chinoises. Donc là, on voit une considérée comme prostituée. Donc une interdiction là, qui apparaît clairement dans la loi. Mais sinon, même si la loi n'est pas sexuée, en fait, il faut observer les pratiques administratives qui peuvent distinguer les politiques à l'égard des hommes et des femmes. Donc c'est pour ça qu'il faut aller un peu plus loin que les textes législatifs pour analyser donc ce genre des politiques migratoires. Donc des politiques ont empêché des politiques nationales dans les pays de départ. Donc là aussi, c'est important de voir aussi le point de vue du pays de départ. Ont empêché les femmes de partir, par exemple en Italie. À la fin des années 20, l'Italie mussolinienne a empêché les femmes de partir au moment où l'Italie met en place une politique démographique et veut garder les femmes pour qu'elles puissent donner naissance à des petits Italiens. Donc il y a même pour les femmes parties, l'Italie paye le voyage de retour pour accoucher en Italie. Donc on voit comment le corps des femmes est un enjeu national au cours du XXe siècle. Il y a aussi une sélection qui se fait par le pays d'immigration, comme les États-Unis par exemple, qui externalise là aussi la sélection de ces immigrants, par exemple en Pologne, consulat américain de Varsovie, qui met en place des tests de santé, etc., au départ, avant de donner l'autorisation du départ pour la traversée. Et donc empêche au moment où les États-Unis mettent en place les lois des quotas, en 1921 et 1924, il empêche les femmes polonaises qui appartiennent à une catégorie hors quota, c'est-à-dire comme elles sont mariées à des Polonais devenus citoyens américains, elles peuvent venir quand même. Et par le biais de tests d'intelligence, en fait, elles sont empêchées de partir. On les considère comme mentalement déficientes. Donc on voit tout un tas de stratégies aussi d'immigration à l'extérieur de ces frontières. Donc dans des consulats, là c'était l'exemple, c'était dans les années 20. Ça a été contesté, il y a eu des mobilisations. J'ai trouvé des archives sur cette question-là, c'était très intéressant.
Et sur les politiques actuelles, j'ai l'impression que les politiques actuelles se concentrent beaucoup quand même sur l'immigration illégale, non ? Ou je me trompe ?
Les politiques actuelles sur l'immigration illégale ?
Oui.
Oui ?
Les politiques migratoires.
Oui, voilà. Oui, effectivement. Donc c'est parce qu'on peut aussi parler des politiques qui ont favorisé l'immigration des femmes, parce qu'il y en a eu aussi. Donc notamment dans les années 20 et 30, il y avait un besoin de main-d'œuvre féminine pour combler des besoins de marché du travail, et y compris pendant la crise des années 30, j'ai pu constater qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre et donc des politiques qui favorisaient l'immigration des femmes. Donc à l'inverse, parfois les femmes ne sont pas souhaitées, l'immigration des familles n'est pas souhaitée, et à l'inverse, parfois, elle est souhaitée. Là aussi, ça dépend du contexte, des politiques, de la xénophobie qui se développe à certaines périodes.
Comme l'a dit Linda, il y a des politiques migratoires qui ont un caractère explicitement genré, et puis il y a des politiques migratoires qui le sont implicitement, c'est-à-dire qui ont des effets concrets et différenciés sur les hommes et les femmes. Dans les politiques migratoires qui ont un caractère explicitement genré, on peut peut-être mentionner des politiques d'émigration. Je pense à un exemple qu'on utilise souvent, qui est la politique migratoire des Philippines, vis-à-vis de la migration féminine, qui est extrêmement proactive avec des formations en fait, à la migration, hein, des formations aux métiers, qui sont souvent des métiers du care, les nannies, les nounous, les travailleuses domestiques. Et donc, l'État philippin a orienté toute une partie de son système éducatif vers cette formation en fait, à des métiers qui sont demandés dans des pays plus riches. Et comme une grande partie en fait, du PIB des Philippines repose sur cette migration, il y a un encouragement au départ des femmes qui sont formées pour cela, pour après pouvoir capter en fait, les transferts financiers. Donc ça peut être des politiques très proactives, très, très complexes, en fait, très articulées du point de vue des états de départ.
Alors justement, tu me tends la perche. Quels sont les motifs qui vont pousser les femmes à migrer ?
Alors, les motifs qui vont pousser les femmes à migrer, ils sont tout aussi variés que pour les hommes, à savoir des motivations qui peuvent être liées à des situations d'instabilité dans les pays de départ, des motivations qui peuvent être d'ordre économique, des motivations en général qui ont trait au fait de vouloir simplement améliorer sa situation. C'est-à-dire la migration, au fond, et quelle que soit la migration, que ce soit une migration sud-nord, nord-sud, sud-sud, de toute façon, toutes les migrations ont pour objectif d'améliorer la situation. Quand on choisit même de faire un choix à court terme, je ne sais pas moi, d'aller étudier dans un pays étranger, c'est aussi pour se sentir mieux, a priori, pour apprendre des nouvelles choses, améliorer les choses. Donc toutes ces migrations, en fait, elles ont ça en commun. Après, le degré d'amélioration, il est variable selon les conditions du départ. et les conditions et le contexte de départ sont aussi caractérisés en termes de genre. Donc, en fait, par exemple, si on est dans un pays où il y a une dictature, un pays avec un gouvernement autoritaire, comme c'est le cas, par exemple, en Érythrée, ou un pays dans lequel il y a une guerre civile, dans lequel il y a des tensions politiques extrêmement fortes, il peut y avoir aussi des tensions qui sont spécifiquement genrées. Donc on l'a vu par exemple au Nigeria avec les effets de Boko Haram sur les femmes, hein, en particulier des situations comme ça où on a des violences spécifiquement genrées. Et puis plus généralement, il y a des raisons aussi qu'on traite au genre dans la situation des femmes dans les contextes d'origine, de départ. Donc par exemple, j'ai documenté le fait que les femmes sur lesquelles j'ai pu travailler dans mes recherches sont souvent des femmes qui sont non pas aux marges de la société, mais qui ont des situations spécifiques qui ne sont pas si originales. Hein, par exemple, des mères célibataires ou des femmes qui se sont retrouvées mariées de force avec des mariages arrangés qui font qu'elles vont être malheureuses dans ces mariages et qui, à un moment donné, pour ces raisons-là, donc qui ont trait au genre, vont décider de prendre la route. Ça peut être des situations très violentes. Des violences de genre extrêmement, extrêmement importantes. Ça peut être des situations moins violentes, mais des formes de marginalisation sociale, de stigmatisation, qui font qu'elles vont décider de partir.
Témoignage de Annie, somalienne. Je n'ai rien décidé. Je voulais rester en famille, mais les combats s'intensifiaient. Mon père m'a dit, si tu restes, les problèmes vont s'aggraver. Il avait peur que je sois kidnappée. Ils prennent les femmes non mariées et ils les violent. Les milices l'avaient déjà kidnappé, lui, puis elles l'avaient relâché parce que nous avions payé. Il avait peur pour moi, ma mère aussi. Mon père m'a donné de l'argent, assez pour faire l'Éthiopie, le Soudan, la Libye. Et puis de Libye, c'est ma tante qui m'a envoyé de l'argent. Extrait de Camille Schmoll, Les damnés de la mer.
Du coup, comme l'a dit Camille, effectivement, concernant les motifs de départ de femmes, tout dépend du contexte, des groupes, des contraintes, des opportunités. Je citerai un exemple, celui des Irlandaises qui sont parties aux États-Unis au milieu du 19e siècle, après la Grande Famine, donc, et qui est particulier puisque les femmes représentent 50% de cette immigration-là, donc 10% de plus que les autres groupes à cette époque. Alors pourquoi ? Pourquoi des femmes irlandaises partent pour moitié des migrants à ce moment-là? Donc il y a plusieurs facteurs. Donc les recherches sur cette question-là ont montré qu'il y a d'abord le système d'héritage dans le pays qui favorise donc le fils aîné. Et du coup, des femmes, les filles, sont mariées à des fermiers alentours, mais certaines ne trouvent pas à convoler. Du coup, elles sont prêtes pour partir outre-Atlantique, où elles ont un métier assuré dans la domesticité ou le textile, puisqu'il y a tout un réseau aussi qui se crée. Il faut avoir des ressources, un réseau pour pouvoir partir. Il y a aussi le facteur de la dot qui devient plus importante à cette période-là. Et donc une seule fille dans la famille est dotée. Donc les autres doivent partir, doivent quitter la ferme et partent donc en Amérique du Nord. Et il y a aussi la volonté d'échapper au travail non rémunéré au sein de la famille et finalement de concilier des aspirations individuelles à des obligations familiales, puisque les projets sont souvent collectifs à ce moment-là, et donc font partie, là aussi, une des filles part ou une deuxième. Donc voilà ce qui explique cette prédominance, donc puisqu'elles sont majoritaires même au recensement américain dans les années 1860 aux États-Unis.
Voilà. Alors justement, ça va m'amener à vous poser à toutes les deux la question de la façon dont les migrations se déroulent. Je veux dire par là, est-ce qu'on a affaire à des femmes qui se déplacent à plusieurs? Est-ce qu'elles se déplacent en famille? Ou est-ce qu'au contraire, la migration est toujours un phénomène solitaire?
La migration n'est absolument pas un phénomène solitaire. Et même quand on part seul, quand on voyage seul, il y a tout un entourage, un contexte qui est fait d'abord d'un réseau familial, d'un réseau communautaires, d'autres réseaux parfois des réseaux aussi criminels, hein, qui entourent les femmes et les hommes qui migrent. Donc en fait, l'exemple, la lecture qui a été faite avant par rapport au témoignage de Annie qui vient de Somalie, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle est partie aussi parce que la situation la montée des milices Shabab à ce moment-là à Mogadiscio faisait qu'elle devait partir. Mais en même temps, c'est son père qui l'a poussée, c'est sa famille, parce que en fait, il y a un phénomène de d'enlèvement des jeunes filles, corps non mariés, qui fait que, pour les mariés de force, qui fait qu'il y a un caractère d'urgence au départ de Annie. Mais en même temps, on voit comment se mobilise tout un réseau familial, et notamment cette tante qui vit aux États-Unis et qui va envoyer de l'argent pour qu'elle puisse continuer sa trajectoire. Donc en fait, il y a toujours un entourage dans les migrations, et personne ne migre seul. Dans d'autres histoires, ça va être des réseaux de passeuses, ça va être des intermédiaires, ça va être des amis parfois qui vont aider, des sœurs. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un réseau et qu'il est souvent féminin en ce qui concerne les femmes. Alors, j'aime pas parler de solidarité féminine ou de sororité en ce qui concerne ces situations-là, parce qu'il n'y a pas forcément une intention politique derrière, consciente. Mais de fait, il y a des solidarités genrées. Donc, il faut en parler, en fait.
Voilà.
Je ne sais pas pourquoi je dis que j'aime pas en parler, parce que c'est des solidarités féminines.
On n'aime pas en parler parce que c'est devenu politique, mais oui. En fait, c'est quand même une réalité. Alors Linda, tu écris dans Clio que les migrations entraînent souvent des formes de réagencement de genre pour les femmes et pour les hommes. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, du coup, effectivement, on parlait de femmes qui partent seules ou de femmes donc jeunes ou célibataires ou de femmes mariées. Donc j'ai pu trouver ce genre de figure de femmes seules qui partent laissant mari et enfants au pays, par exemple les nourrices italiennes de la fin du 19e, début 20e siècle, donc qui partent pour se placer comme nourrices dans la bourgeoisie marseillaise à cette époque. Donc, et cette migration est particulière puisqu'elle laisse le mari au pays avec les enfants. Donc c'est assez mal vu, en fait. Donc une reconfiguration de genre avec le départ de l'épouse qui est mal vu par l'Italie, mais aussi en France. J'ai pu trouver des textes où des journalistes trouvent complètement incongrue cette situation. Et les maris sont décrits comme oisifs au pays en voyant leurs femmes travailler comme des quasi-proxénètes à ce moment-là. Donc on voit que ça perturbe en fait. Et la migration, j'ai pu voir aussi chez des acteurs de la réforme sociale de la protection des migrants dans les années 20 et 30, considèrent la migration comme un risque de déstabilisation de normes de genre, puisque la famille est éclatée. Donc le mari gagne-pain n'est plus là quand c'est lui qui part, la femme qui part, donc c'est perturbant. Donc on voit que la norme familiale peut être réagencée avec la migration, qui inquiète beaucoup le regard en tout cas des politiques ou des journalistes pendant cette période-là.
De toute façon, le fait que ce soit la femme qui parte pour travailler, envoyer de l'argent à la famille, ça déconstruit complètement les stéréotypes sur lesquels c'est les hommes qui doivent gagner la croûte de toute la famille.
Tout à fait. Aussi, il y a là le cas donc de l'époux qui part et qui laisse la femme au pays. Donc là aussi, la femme qui reste, on peut penser donc au départ des hommes en cas de mobilisation de guerre, comme pendant la Première Guerre mondiale. Les rôles de genre, là aussi, sont réagencés. Quand le mari part, la femme a d'autres rôles qui lui sont dévolus, etc. Elle prend en charge d'autres éléments qui n'étaient pas de son ressort quand son époux était avec elle. Donc on voit là aussi, quand le mari est loin, donc, et aussi les risques d'abandon d'épouse au pays, donc, qui préoccupent beaucoup les associations de protection de migrants dans les années 20 et 30, qui considèrent vraiment la migration comme un problème du point de vue de la famille.
Qui sont des réalités d'ailleurs, qui peuvent être des réalités.
Oui, tout à fait. Donc des femmes étaient abandonnées, le mari disparaît, se remarie. Donc il y a des cas de mariage à l'étranger qui posent tout un tas de problèmes lorsque la femme demande une pension alimentaire et que l'époux se trouve dans un autre pays. Donc, j'ai trouvé vraiment beaucoup de sources à ce sujet. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est assez passionnant comme sujet.
Je pense qu'en fait, il y a deux stéréotypes qui sont bousculés par ce que nous dit Linda. C'est-à-dire, il y a le stéréotype de genre. Et puis, il y a le stéréotype, ce qu'on appelle parfois le sédentarisme. C'est-à-dire cette idée qu'un foyer, ça devait être ancré dans un lieu, dans un pays. Donc, c'est aussi une forme de nationalisme méthodologique, en quelque sorte, de considérer que finalement, on doit appartenir à un lieu et on peut pas, une famille ne peut pas être tiraillée, entre guillemets, entre plusieurs lieux. On peut pas imaginer cette forme de séparation-là, ces formes de circulation. Aujourd'hui, on retrouve ça dans le stéréotype des orphelins, ce qu'on appelle les orphelins sociaux en Europe de l'Est. On sait que les pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi l'Ukraine, ont des taux d'émigration très élevés, et bien avant le conflit actuel, hein, et que cette émigration est très féminine. Donc on a des migrations féminines en Europe de l'Ouest, de personnes qui viennent de Pologne, de Roumanie, d'Ukraine, dans les 20 dernières années, disons. Donc c'est vraiment lié aussi à la chute du mur. Et ces migrations-là, ce sont souvent des migrations de femmes seules, des migrations de femmes qui circulent. Et il y a eu cette expression qui s'est diffusée dans
dans ces pays, d'orphelins sociaux pour qualifier les enfants qui restaient sur place, qui ne sont pas du tout des orphelins en fait, puisqu'ils ont leur père, ils ont leurs grands-parents. Mais cette idée que la femme était en migration, du coup, elle convoque aussi cette représentation de l'enfant comme complètement délaissé, comme s'il n'y avait pas d'entourage au-delà de sa maman.
Venons-en maintenant plus précisément au parcours migratoire. Il y a un point commun dans vos recherches, que ce soit dans le présent ou dans le passé, c'est le moment de la traversée. Que ce soit la traversée maritime ou la traversée de la montagne, on a l'impression qu'il y a des grandes permanences entre ce que vivent les hommes et les femmes qui traversent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Alors, effectivement, la traversée de la frontière devient importante au moment où les frontières se renforcent, à la fin du 19e siècle en particulier. Elles étaient déjà là, bien sûr, avant. Mais il y a un contrôle qui s'accroît à ce moment-là, avec le nationalisme, le protectionnisme qui se développe. Donc il y a bien sûr la frontière terrestre, concernant le cas français, entre la France et l'Italie, 500 kilomètres entre Chamonix et Menton, qui est de plus en plus surveillée à partir de la fin du 19e siècle. Donc des contrôles accrus, des personnes prennent du coup des routes dangereuses. Il y a des morts déjà pendant cette période dans la montagne où il fait froid. J'ai trouvé des rapports de police avec des femmes avec enfants qui sont en grande difficulté au moment de l'hiver à cause de ces routes parallèles pour éviter les contrôles de police. Donc on voit, ça rappelle ces contrôles mis en place à la frontière franco-italienne depuis 2015, avec la levée de Schengen dans cet espace-là. Donc on retrouve les mêmes cas de figure à partir du moment où les frontières sont contrôlées à la fin du 19e siècle.
Umberta est venue se placer comme femme de chambre en septembre 1929 au service de la famille de Roux, propriétaire d'une huilerie à Marseille. Sa sœur est déjà employée par cette famille en tant que cuisinière. Elle raconte sa venue en France dans une lettre. Ma sœur aînée était placée chez Monsieur de Roux. Je voulais la rejoindre. Je fis à cet effet une demande de passeport à mon gouvernement pour venir en France. Cette demande ne fut pas accordée. Au mois de septembre, sachant que ma sœur se trouvait à Chamonix avec ses patrons à leur résidence d'été, j'ai décidé de quitter l'Italie sans passeport. Je me suis donc cachée dans un autocar qui fait le transport des touristes. De cette façon, j'ai passé la frontière de Modane sans être inquiétée. Malgré les contraintes des papiers, Umberta se débrouille pour franchir la frontière et venir se placer en France. Elle obtient un avis favorable pour son contrat de travail ainsi qu'une carte d'identité sans difficulté. En effet, quelques mois plus tard, des dépêches informent le préfet des Bouches-du-Rhône que les ministres du Travail et de l'Agriculture ont demandé au président du Conseil de faciliter l'introduction des Italiens entrant en France sans être complètement en règle et, je cite, « qu'il n'y a pas lieu de trop rechercher actuellement de quelle façon ces nationaux sont entrés dans notre pays ». Extrait de Linda Guéry, Le genre de l'immigration et de la naturalisation, Marseille, 1918-1940, 2013.
Oui, la question des Alpes est toujours dramatique. Aujourd'hui encore, on a des témoignages qui montrent que pour les migrants qui passent cette frontière, les conditions sont absolument horribles.
Le 29 mars 2022, R, jeune femme. Nous étions dans la montagne, à Montgenèvre, dans la nuit, vers 4h du matin. Quand nous avons vu des policiers au loin, nous sommes allés vers les policiers. Je leur ai dit que nous étions un couple et que j'étais enceinte de 8 mois. Ils nous ont dit « Ne bougez pas, on va aller à l'hôpital ». J'ai demandé à ce que mon mari m'accompagne, mais ils n'ont pas voulu. Je suis alors montée seule dans l'ambulance et je suis allée à l'hôpital. Quand j'ai été transférée à l'hôpital, on m'a dit « Ton mari va être transporté à l'hôpital ». C'est le médecin qui a appelé la police plusieurs fois pour lui expliquer la situation. Le policier n'est pas resté avec moi. Je suis allée à l'hôpital directement car je suis enceinte et que j'avais des contractions. Son mari est gardé à la police aux frontières. J'ai été maintenue de 4h du matin jusqu'à 10h, donc 6h. Je suis redescendue à pied, tout seule, jusqu'à Briançon. Les policiers m'avaient juste donné l'adresse de l'hôpital. Témoignage recueilli par l'ONG Tous Migrants, pratique policière du contrôle des frontières, 2022.
Oui, alors il y a des formes de continuité et puis il y a aussi des ruptures.
Il faut rappeler peut-être qu'il n'y a pas toujours eu des visas. En tout cas, dans l'après-guerre, il y avait des possibilités de circulation plus importantes, de traverser des frontières de façon plus facile. Ensuite, il y a eu l'institution des visas autour des années 80, mais une possibilité d'accéder aux visas pour les ressortissants de certains pays qui était plus importante qu'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les migrations irrégulières ou les migrations clandestines, bon, c'est une expression qui est très contestée par les chercheurs, mais qu'on utilise beaucoup dans le langage commun, eh bien, est provoquée aussi par une réduction des possibilités de voie légale. Et ça, c'est très important. Il faut véritablement dénaturaliser cette idée que la migration irrégulière est un phénomène naturel. Non, c'est un phénomène qui est provoqué par la fermeture des frontières et par tous les mécanismes qui sont mis en place pour décourager les personnes, pour rendre impossible en fait la migration légale. Donc ça, c'est très important et on peut le restituer dans un contexte qui est celui d'un renforcement des frontières externes de l'Union européenne, de la mise en place de Schengen qui, à partir des années 90, va renforcer la circulation interne, mais aussi renforcer la frontière extérieure de l'espace Schengen. Et c'est là, en fait, c'est dans ces années 90 que la Méditerranée, par exemple, devient cet espace de traversée périlleuse. Cette Méditerranée qui a été pendant un moment un espace de circulation où on pouvait faire des allers-retours, où il y avait toutes sortes de personnes qui circulaient. Je pense à l'espace entre la Tunisie et l'Italie et la Sicile, sur lequel j'ai pas mal travaillé, devient cet espace frontière, ce mur, en fait. Et c'est là qu'on voit aussi augmenter les décès en mer et les migrations irrégulières qui, en certains moments, deviennent particulièrement importantes parce qu'il y a une guerre civile, il y a des facteurs de départ qui font que, les printemps arabes par exemple, qui font qu'il va y avoir beaucoup de départs et aussi beaucoup de morts. Donc c'est quelque chose de finalement relativement récent, qui rappelle d'autres épisodes historiques. Et dans ces moments-là, dans ces moments de, je ne sais pas si on peut dire que c'est des moments d'irrégularisation de la migration ou d'illégalisation de la migration, ou de criminalisation même de la migration, c'est ce que disent les chercheurs et les chercheuses, les femmes sont particulièrement vulnérables.
Les bateaux sont fragiles. Quand vous êtes dans la maison, les Libyens qui vous gardent vous disent que vous allez traverser dans un grand bateau. Mais quand vous arrivez au bord de la mer, il ne faut même pas tousser. Parce que vous voyez le zodiaque, et si vous ne montez pas, on vous tue. Parce qu'ils savent que si vous le dites, les autres dans la maison vont crier, parce qu'on leur a dit que c'était un grand bateau. Quand vous arrivez au bord de la mer, c'est pas ça. Et vous marchez dans l'eau avant de monter. Si tu dis que tu ne montes pas, on te tue. On a tué une Ivoirienne au bord de la mer parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas monter à bord. Tu entends à peine le bruit du fusil, et la personne tombe seulement. Moi aussi, je voulais refuser, mais un monsieur m'a dit tout bas, « T'as vu, la fille est morte, on l'a tuée, il faut te taire. » Moi, je tremblais, je me disais, « Je ne peux pas, je ne sais pas nager. » C'était la première fois que je voyais la mer. Je l'avais vue à la télé, mais là, c'était pas pareil. Ils m'ont mise à l'eau à 3h du matin, et nous sommes arrivés à 7h30 à Potsalo. On nous a secourus en mer, l'eau entrait déjà. Comme on était assises, l'eau pénétrait déjà partout. On était 110. Il y avait plus de femmes que d'hommes. On était nombreuses. Extrait du témoignage de Julienne dans Camille Schmoll, Les damnés de la mer.
Bon, je pense que le témoignage de Julienne, il est, et c'est d'ailleurs pour cela que j'avais décidé de dédier un chapitre à l'histoire de Julienne. Il est particulièrement poignant et en même temps, il est exemplaire de cette réalité de la traversée, qui est une traversée extrêmement périlleuse. Et d'ailleurs, on voit qu'un certain nombre de personnes vont périr en fait, au fil de cette traversée. Donc c'est un des moments forts, en fait, dans les récits de trajectoire que moi j'ai pu recueillir, c'est un des moments forts, cette traversée de la Méditerranée. Il y en a d'autres, le passage en Libye, parfois aussi l'arrivée dans les hotspots en Europe, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est un moment terrible. Et ce que je trouve particulièrement poignant dans ce témoignage, c'est qu'en fait, c'est un moment qui continue à exister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens continuent à périr en mer, continuent à traverser dans des circonstances de plus en plus périlleuses parce que les bateaux sont séquestrés. On voit ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, à Sfax, en Tunisie. Les gens traversent dans des bateaux désormais construits avec de la ferraille. Quand on voit ces bateaux, on ne comprend même pas comment ils peuvent flotter, en fait. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes périssent au début de la traversée. Et cette précarisation, elle a des raisons qui ont trait justement à ce dont on parlait avant, c'est-à-dire cette criminalisation des migrations qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre voie, en fait. Donc quand on est poussé à partir, et ce qu'on essaye d'avancer du point de vue des chercheurs, c'est que on peut le regretter, mais aucune politique visant à décourager les gens ne les empêchera de prendre la mer, parce que quand les gens prennent la mer, c'est qu'ils n'ont pas d'alternative, en fait. Et donc, ce qui est paradoxal aujourd'hui, je suis désolée, je fais le parallèle avec la situation en Tunisie, parce qu'il y a une urgence et une actualité, mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on est là face à une situation où on a voulu renforcer le contrôle migratoire en Tunisie, donc en développant une politique de coopération avec la Tunisie, et en renforçant le contrôle migratoire, en fait, on a créé une situation intenable pour les personnes qui vivaient là-bas, qui n'avaient peut-être même pas l'intention de venir en Europe, et qui sont poussés au départ par ces politiques-là. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement ces politiques ne fonctionnent pas, mais en plus elles sont contre-productives puisqu'elles poussent les gens à prendre la mer. Et c'est la situation à laquelle on fait face aujourd'hui, avec une augmentation encore des traversées et des décès sur l'année 2023.
Linda, est-ce que dans le passé, les traversées étaient aussi difficiles ?
Donc, je vais évoquer une traversée maritime, cette fois la traversée transatlantique à la fin du 19e, début 20e, donc de l'Europe vers les États-Unis, et qui est une période où les États-Unis ouvrent leurs frontières et accueillent des immigrants. Donc, ils les sélectionnent, bien sûr, il y a quand même l'idée de sélection toujours quand un pays décide de mener une politique d'immigration. Toujours l'idée de sélectionner les personnes qu'il fait rentrer. Donc ces migrations transatlantiques, au départ, elles se passent en voilier. Et à partir de 1860, on a des paquebots à vapeur qui transportent plus de 1000 personnes. Donc c'est absolument énorme. Pendant une quinzaine de jours, la traversée est assez longue. Il y a tout un commerce autour de cette migration, des compagnies maritimes qui font des profits faramineux sur ces transports de migrants qui sont souvent corrélés aussi à des transports en train avant d'arriver dans les ports qui prennent en charge les personnes pour les amener donc aux États-Unis. Et il y a des problèmes également à bord avec toutes ces personnes, donc des problèmes d'hygiène, de maladie, d'agression sexuelle aussi auprès de jeunes filles. Donc il y a des inspections, alors des inspecteurs qui appartiennent aux compagnies maritimes, ce qui est très critiqué à l'époque, et des organisations de protection de migrants militent pour qu'il y ait des femmes inspectrices, ce qui se passe dans certains cas, et que ces inspecteurs, inspectrices sur les bateaux n'appartiennent pas aux compagnies maritimes pour éviter les conflits d'intérêts. Donc sur ces bateaux, à un moment donné, il est décidé de séparer donc, les familles des célibataires, et parmi les célibataires, de séparer les hommes et les femmes pour éviter ces problèmes d'agression sexuelle qui ont lieu sur ces bateaux. Donc il y a des conventions internationales, notamment adoptées par le Bureau international du travail, pour réglementer et contrôler ces migrations de milliers de personnes qui représentent des millions, enfin c'est 50 millions de personnes qui partent d'Europe vers l'Amérique au cours de cette période 1880-1910.
Alors je voudrais qu'on poursuive finalement sur les difficultés de cette phase migratoire avec la question des violences, peut-être en distinguant deux formes de violences. D'abord les violences administratives subies par les femmes et les hommes, et puis dans un deuxième temps les violences sexuelles.
Donc pour poursuivre sur cette immigration massive vers l'Amérique du Nord, j'évoquerai les centres d'inspection à l'arrivée quand ces bateaux arrivent aux États-Unis. Donc il y en a plusieurs, côté Pacifique avec Angel Island à San Francisco et côté Atlantique avec Ellis Island qui ouvre en 1892 jusque dans les années 50. Et ces centres d'inspection sont assez violents en fait puisque les personnes arrivent ici. Elles sont inspectées, on leur pose des questions, il y a des visites médicales. Donc les chercheurs qui ont analysé ces espaces-là, de tri, finalement peu de tri, puisque le tri est fait en amont, comme je l'ai dit tout à l'heure, et toutes les personnes ne peuvent pas monter sur les bateaux. Il faut déjà pouvoir rentrer dans les critères de sélection. Donc ces espaces ont une fonction sociale assez complexe. Une chercheuse notamment a étudié ces espaces comme une initiation en fait, à la société américaine, industrielle, répétitive, disciplinaire. Elle est surnommée, cette île, quand même, l'île aux larmes. Donc c'est assez significatif. Finalement, il y a à peu près 2% sur les 25 millions de personnes qui passent par Ellis Island. 2% sont déportées, on emploie ce terme en anglais. Donc ce qui est assez peu, finalement, puisque la sélection se fait avant cela. Il y a aussi tous les espaces de transit avant de pouvoir respecter les critères, pouvoir monter sur un bateau qui nous conduira là-bas, où des personnes restent assez longtemps. Donc ça a été étudié notamment par Céline Régnard, qui a étudié le cas des Syriens dans les espaces de transit au Havre, à Marseille, à ce moment-là, au tournant du XXe siècle.
Alors, sur les violences, la spécificité en fait, des violences faites aux femmes sur les trajectoires migratoires, on sait que c'est ça couvre l'ensemble des trajectoires, parce que c'est des raisons du départ qui sont souvent liées à des violences ou à des risques de violences dites. Parfois, on parle de violences sexo-spécifiques. Bon, ce n'est pas une très jolie expression, mais les associations l'utilisent beaucoup. Donc, c'est un terme de plaidoyer, on va dire. Donc, ces violences en amont, ces violences au fil de la trajectoire, ces violences à l'arrivée. Et effectivement, ce sont à la fois des violences sexuelles, des agressions, des viols, mais ce sont aussi des violences administratives qui, par exemple, peuvent être liées à la non-reconnaissance des violences sexuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la reconnaissance des violences sexuelles dans le cadre d'une demande d'asile ou d'une demande de protection en Europe, elle progresse sur certains fronts. Il y a une reconnaissance de la part des violences sexuelles dans les motifs de l'asile, qui est de plus en plus importante, mais sur d'autres fronts, elle régresse. Et c'est notamment ce qui a été beaucoup documenté par les socio-anthropologues qui travaillent sur l'asile, c'est-à-dire l'espèce de suspicion qu'il y a par rapport à toute demande d'asile, et qui fait que les femmes vont être amenées, quand elles doivent témoigner d'un risque ou d'une forme de violence sexuelle, à fournir des témoignages extrêmement poussés, sur lesquels on va discuter de la congruence ou pas de tel ou tel élément. Et cette question de l'administration de la preuve, qui peut être une violence extrêmement forte. Je voudrais rappeler une chose qui est quand même inconcevable, à mon sens, aujourd'hui, c'est que les violences subies en route ne permettent pas d'accéder à une forme de protection et donc en quelque sorte de reconnaissance aujourd'hui juridique. C'est-à-dire qu'en fait, si une femme veut faire une demande d'asile aujourd'hui en France, en Europe, du fait des violences qu'elle aurait pu subir ou qu'elle a subies avant de partir, c'est un motif pertinent de l'asile. En revanche, la plupart des femmes, ça c'est très documenté, on le sait, la plupart des femmes qui ont traversé un certain nombre de frontières, qui ont traversé la Méditerranée, ont été violées en route, et ça ne justifie pas du tout, en fait, l'asile. Donc, du point de vue juridique, ces violences-là, elles n'ont, si je puis dire, de façon un peu triviale, aucune utilité. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas reconnues, elles ne permettront pas d'aboutir à un titre de séjour. Ce qui est extrêmement grave, parce qu'en fait, avoir des papiers, c'est aussi une reconnaissance d'un statut, d'une vulnérabilité qui permet aussi de dépasser cette vulnérabilité et d'accéder à des soins, accéder à une amélioration, une stabilisation.
Oui, il y a une forte imbrication en fait entre les violences administratives et les violences sexuelles. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que plus les femmes sont dans des situations administratives précaires, plus on va abuser de leur corps, et plus on abuse de leur corps, plus elles sont dans la précarité.
Oui, c'est un cercle vicieux. Il y a un continuum, et puis c'est un cercle vicieux également. Et aujourd'hui, les femmes sont les femmes qui ont traversé les violences sexuelles le long des frontières, ont traversé des frontières, se retrouvent aujourd'hui dans des situations de précarité qui favorisent aussi les situations d'abus. Ça a été aussi très très bien documenté sur des études récentes, notamment basées sur des enquêtes menées à Marseille, qui ont montré à quel point le risque de subir des violences sexuelles était proportionnel au fait d'avoir subi en fait des violences sexuelles en route, et qui était liée aussi à l'irrégularité des trajectoires migratoires et à la précarité juridique, en effet.
Donc j'aimerais évoquer le cas des Polonaises recrutées dans les fermes françaises dans les années 20. Donc c'est la Société Générale d'Immigration qui regroupe des syndicats agricoles et aussi du secteur minier qui va recruter 400 000 Polonais pendant les années 20. Et dans ce cadre-là, il y a une immigration de femmes pour travailler dans les fermes françaises en manque de main-d'œuvre pour des travaux extrêmement difficiles. Donc on a retrouvé des archives, il y a un livre qui a été édité qui s'appelle Polonaise au champ, puisque la Pologne s'inquiète du sort en fait de ces ressortissantes polonaises qui disent subir des violences, etc., dans le cadre de leur travail, donc dans les fermes, travail pour lesquels elles ont été recrutées, donc aussi des agressions sexuelles de la part des patrons, etc. Et la Pologne demande à ce qu'il y ait un peu de la surveillance de la part des autorités françaises, sinon, disent-ils, ils n'en verront plus de bonnes de fermes. Donc la France est obligée de créer des comités de protection de femmes migrantes, ça s'appelle comme ça. Donc il y en a une quarantaine, il y en a très peu qui fonctionnent finalement, avec des travailleuses sociales qui sont chargées donc d'aller voir si les conditions de travail se passent bien. On a retrouvé les lettres de certains comités. Dans ces lettres, elles disent la dureté du travail. Elles sont très mal payées. D'ailleurs, pour faire venir ces femmes, on loue leur masculinité, en fait, leur force, en disant « elles travailleront bien dans la ferme ». puisqu'elles sont très fortes, les Polonaises. Donc la maltraitance ressort également, des salaires extrêmement bas et les difficultés administratives. On en parlait, comme quoi elles s'ajoutent aussi à ces difficultés, puisqu'elles sont un peu coincées chez ce patron et elles essayent d'en sortir. Certaines veulent porter plainte contre les fermiers qui les embauchent. Donc elles essayent aussi de se débrouiller. On voit aussi l'agency de ces femmes qui ne se laissent pas faire et qui essayent de trouver des ressources pour régler un certain nombre de problèmes et pour certaines d'entre elles, quitter les fermes où elles sont maltraitées.
Il faut peut-être rappeler, ça ne concerne pas seulement les femmes, d'ailleurs que la France a un statut un petit peu particulier en Europe dans l'histoire de l'immigration de travail, au sens où, dès le 19e siècle, il y a un besoin très fort de main-d'œuvre immigrée. Et donc, voilà...
400 000 polonaises.
Non, pas polonaises, polonaises.
Oui, surtout des hommes.
Dans l'entre-deux-guerres, oui, voilà.
Surtout des
mais
hommes.
C'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose, même tout si ça nous sort du domaine du genre mais, et de la question des femmes, mais qu'il faut rappeler. Quoi. C'est-à-dire l'exceptionnalité française et l'importance de l'immigration de travail dès la fin du 19e siècle.
Par rapport aux autres pays européens, effectivement.
Alors, on a parlé des difficultés rencontrées par les femmes le long de leur parcours migratoire. Qu'en est-il à l'arrivée ? Est-ce que, une fois qu'elles sont arrivées, tout va bien ?
Alors déjà, on pourrait revenir sur ce que c'est que l'arrivée, parce que, en fait, bon, c'est pas nécessairement une installation définitive. Voilà, il faut sortir un peu de cette approche un peu linéaire des parcours migratoires qui fait qu'après une longue traversée, on arriverait, on s'installerait et on poserait ses bagages définitivement. C'est pas nécessairement le cas, ne serait-ce que parce que, en tout cas, en ce qui concerne les femmes sur lesquelles j'ai enquêté, qui sont des femmes qui donc ont traversé les frontières de façon irrégulière, vont demeurer en situation d'irrégularité. Et donc, elles sont potentiellement expulsables. Donc, certaines vont repartir à la case départ, quitte à se remettre en route. Donc, c'est peut-être la première chose qu'il faut dire, voilà, c'est que rien n'est gagné. Et pour celles qui sont sur place, certaines vont obtenir une protection, vont obtenir l'asile. Et donc, ça stabilise en quelque sorte, parce que le fait d'obtenir l'asile permet d'accéder à certains droits. Droit au logement, droit à une forme de protection sociale, à la santé, etc. Au regroupement familial aussi, éventuellement. Mais pour d'autres, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Parmi les femmes sur lesquelles j'ai travaillé, nombre d'entre elles ont des situations, par exemple, de travail, de contrat de travail, mais n'ont pas de papier. Et donc, ce sont les femmes qu'on retrouve dans les fameux secteurs en tension, dans le soin, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, à domicile, donc qui vont travailler dans les métiers dits du care, qui n'ont pas nécessairement de papier. Certaines reçoivent des OQTF, elles sont ou pas expulsées. Certaines obtiennent des papiers du fait des contrats de travail, des fiches de paye qu'elles ont pu accumuler, mais vont avoir des papiers pour un an, ou alors du fait d'une situation de santé particulièrement précaire, puisqu'il y a des traumatismes liés à la trajectoire. Et certaines, du fait de cette précarité administrative, vont se retrouver dans des situations d'exploitation, y compris d'exploitation sexuelle, de violence, y compris de violence conjugale, extrêmement tendue. Je pense à un rapport qui a été fait par la Fondation, je crois, Primo Levi, récemment, sur la situation des femmes, justement, est extrêmement, extrêmement noire. Et force est de constater que la nouvelle loi, qui a été donc votée en décembre dernier, va accentuer ces situations de précarité, puisqu'il y a un certain nombre de conditions sur l'accès à la santé, au logement, aux prestations sociales, etc., qui va faire que la situation des femmes, en particulier, va être particulièrement précarisée. Donc ce sont des trajectoires très longues, très dures, qui sont souvent marquées par des formes d'emploi qui génèrent des situations d'exploitation, y compris d'exploitation sexuelle, et ça peut durer très longtemps. Peut-être une autre difficulté que je voudrais signaler, c'est la question aussi de l'accès à l'asile, qui est conditionné par ce qu'on appelle la Convention de Dublin, qui restreint en fait la possibilité de demander l'asile au premier pays d'entrée en Europe, et qui fait que certaines femmes qui sont entrées par l'Italie, qui sont entrées par la Grèce, et qui ne souhaitent pas demander l'asile dans ces pays-là, pour plein de raisons qui ont trait au fait que ce ne sont pas des pays dans lesquels elles ont des ancrages, des ressources, etc., vont se retrouver à ne pas pouvoir demander l'asile dans d'autres pays européens et à être éventuellement expulsables vers ces premiers pays d'entrée. Ça contribue aussi à précariser énormément les femmes, puisqu'elles vont devoir attendre, par exemple, en France, quand on est passé par l'Italie, il faut attendre 18 mois avant de pouvoir déposer une demande d'asile. Donc c'est un délai qui contribue à renforcer cette précarisation.
Oui, alors je voudrais juste qu'on, qu'on creuse un peu, parce que tu dis, ben voilà, ça va les précariser. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour elles ?
Bah, c'est sur tous les plans, hein. C'est la question du logement, c'est la question de la santé, et puis c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire, il y a aussi la question du trauma qui a été énormément traité par les psys. C'est quand on a été violé en route, quand on a vécu des épreuves, en fait, hein, ces épreuves de la traversée de la frontière, c'est très important à un moment d'avoir une sécurité pour pouvoir aussi se reconstruire. Et la sécurité, elle est juridique, elle est matérielle, elle est résidentielle, elle couvre en fait tous les aspects de la vie quotidienne. Or, les sujets sont nombreux, hein. On pourrait parler par exemple de la question du logement et de l'offre de logements d'urgence actuellement en France. On sait très bien qu'il y a des femmes et des enfants à la rue qui n'ont pas accès parce que le 115 est débordé, parce qu'il n'y a pas assez de places de logement d'urgence et parce qu'il y a eu une forme d'impuissance des politiques publiques à régler cette question-là. Donc cette question, elle est multidimensionnelle et les mécanismes de dépendance et d'exploitation dans lesquels les femmes vont se retrouver, de précarisation, de vulnérabilisation, ne peuvent être compris si on ne prend pas en compte toutes ces dimensions, la dimension légale, administrative, la dimension du travail, la dimension des enfants, qui prend en charge les enfants, comment, l'accès à la santé, l'accès aux soins, à la santé, y compris la santé psychique, la santé mentale, tous ces aspects sont importants. Et sinon, on se retrouve dans des femmes avec des carrières de dépendance. Par exemple, la situation malheureusement assez classique que moi j'ai pu observer, c'est le fait de se retrouver avec des hommes violents, parce que ces hommes offrent un toit. Parce que ces hommes offrent une protection, parfois une promesse de Pax ou de mariage, qui va permettre aussi une régularisation. Et ces hommes-là, ces hommes qui sont dans des postures de prédateurs, en fait, hein, profitent en fait, de la vulnérabilité de ces femmes pour les exploiter.
Oui, et pour terminer là-dessus, moi je sais que quand j'ai entendu les mesures qui étaient prévues dans la nouvelle loi immigration, j'ai pensé immédiatement à la situation de ces femmes violées ou enceintes et... On se dit, ben, nous, les femmes des pays développés, on a cette chance qu'on se soucie de notre santé, qu'elle soit mentale ou physique. Et là, parce que ces femmes ne sont pas originaires du pays, eh bien, elles sont aussi invisibilisées dans cette souffrance psychique et physique. Ça fait un peu peur.
Oui, alors il y a des initiatives extraordinaires, hein, du côté des médecins, du côté des psychiatres. Il y a des endroits absolument incroyables en France où prend en fait en compte la souffrance de ces femmes, où on les prend en charge. Mais ce qui est complètement sidérant, c'est en fait le silence de la puissance publique là-dessus. Et les associatifs ne cessent de dire, mais ce n'est pas possible que nous soyons en charge seuls de cette question-là, sans aucun recours du point de vue des politiques publiques, du point de vue des décisions politiques sur ces questions-là. C'est vraiment un angle mort et c'est même une... disons que... La question de la précarité des femmes, elle s'intègre à cette question de la vulnérabilisation plus générale des populations immigrées, migrantes aujourd'hui en France, qui va être extrêmement, extrêmement renforcée par cette nouvelle loi.
Alors justement, dans la loi immigration, il y a aussi un volet sur le regroupement familial et ça me semble très important d'en parler pour le présent, mais aussi pour le passé.
Oui, tout à fait. Donc quand on parle de regroupement familial, le plus souvent, on se réfère à un titre de séjour, puisque des familles peuvent se regrouper en dehors de toute politique. Mais quand on parle de titre de séjour, donc il s'agit d'une catégorie administrative, d'un mode d'entrée pour une catégorie de personnes qui vise en particulier les femmes et les enfants. Donc l'origine de cette procédure, elle remonte dans les années 20, comme j'ai pu le découvrir dans mon travail doctoral. Il s'appelait à ce moment-là « Introduction de familles de travailleurs étrangers ». Donc il y avait déjà des conditions de ressources, de logement, etc. Et c'était une période où la France voulait accueillir des familles, sélectionnées bien sûr, pour repeupler la France. Donc là, on avait à la fois des politiques natalistes et populationnistes, donc faire venir des immigrés, puisque la puissance démographique, donc là aussi, on a un peu d'actualité avec la question de réarmement démographique, donc il y avait déjà cette question-là dans les années 20, on craignait d'avoir trop peu de soldats, donc c'était un des motifs, aujourd'hui c'est plus le motif économique qui est mis en avant. Donc cette procédure de regroupement familial recouvre assez peu la réalité des parcours migratoires. C'est juste un mode d'entrée sur le territoire. Ça dit peu de choses des personnes concernées, mais ça dit beaucoup de choses de ceux qui font les lois et qui mettent en œuvre ces procédures. Donc avec une immigration de travail organisée pour les hommes, qui vise les hommes, et immigration de famille, qui vise les femmes et les enfants. Donc selon le contexte, l'immigration familiale est souhaitée ou rejetée, comme dans les années 30. Là aussi, il y a une remise en cause de ce titre de séjour, et à partir des années 70. Donc à ce sujet, j'évoquerai le cas suisse de la deuxième moitié du XXe siècle, étudié par Christina Schulz, qui a un lien avec le statut des saisonniers, qui est un statut assez restrictif, puisque c'est les travailleurs saisonniers qui viennent travailler en Suisse avec un statut qui limite leur séjour à 9 mois, qui est mis en place dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et ces hommes qui viennent font venir leur famille malgré tout, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, et donc cachent leur famille chez eux, donc leurs femmes et leurs enfants. Et ces enfants ne sont pas scolarisés, parce qu'ils ont peur qu'ils se fassent attraper. Donc on a appelé ces enfants, en tout cas des organismes qui se mobilisent dans les années 70 pour dénoncer ce phénomène, puisque plusieurs dizaines de milliers d'enfants sont concernés, les enfants du placard. Donc finalement, le statut de saisonnier est supprimé dans les années 2000, mais ça illustre bien comment les catégories liées au titre de séjour reflètent assez peu la réalité et créent des contraintes finalement pour des familles qui souhaitaient venir s'installer en Suisse. Donc ces mobilisations pour défendre le droit des familles à se regrouper, donc dans le cas suisse dans les années 70, il a lieu aussi à l'échelle internationale depuis les années 20. Mais finalement, les États signataires et des conventions qui respectent le droit des familles à se regrouper, mais les États signataires restent souverains sur la définition des conditions et les modalités dites de séjour. Donc c'est assez compliqué de faire respecter ce droit malgré tout.
En France, les politiques de regroupement familial, elles se développent dans les années 70 ?
Alors ça existe, comme je disais, depuis les années 20 et ça a été appliqué aussi depuis les années 50, même après 45 en fait. En 70...
C'est une restriction, c'est ça ?
Oui,
c'est
voilà.
Le contraire.
Et après, finalement, une ouverture, mais c'est une restriction à l'immigration de travail.
Alors comme l'a dit Linda, en fait, la politique ne dit rien en fait, de ce qui se passe à travers cette migration familiale. C'est-à-dire, par exemple, on a ce stéréotype qu'une femme qui va venir à travers le regroupement familial ne sera pas une travailleuse. En l'occurrence, même si elle vient dans le cadre du regroupement familial et que pendant un certain temps, elle a des enfants en bas âge, ce qui va freiner son entrée sur le marché du travail, à un moment donné, elle aura peut-être aussi besoin et peut-être envie aussi de travailler. Donc, en fait, c'est toujours la question de distinguer en fait, ce qui est de l'ordre des politiques, d'un moment politique, et c'est vrai que ce moment des années 70-80 où on parle beaucoup de regroupement familial et en même temps un moment où des personnes vont pouvoir passer par le regroupement familial pour venir en France, mais pas forcément après en vue de simplement rester au foyer. Et voilà, je voulais dire qu'il y avait une étude récente qui avait été menée à l'INED qui montrait qu'en fait les femmes migrantes d'Afrique de l'Ouest étaient initiatrices aussi beaucoup de regroupement familial, plus que dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire que c'était parce qu'on a toujours ce cliché aussi de l'homme qui va faire venir sa famille. Donc la migration de regroupement familial, elle est dans les deux sens et c'est important de le rappeler. Et enfin, effectivement, il faut rappeler que si il y a de nombreuses tentatives de freiner ce regroupement familial parce qu'il y a un voile de suspicion autour de cette politique-là, il faut rappeler que ce n'est pas l'essentiel des entrées en France. C'est que l'essentiel des entrées en France, aujourd'hui, les titres de séjour, ce sont les étudiants.
Et les étudiantes.
Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on change un peu le regard porté sur ces migrations. Beaucoup de migrantes souhaitent qu'on les regarde autrement que comme des victimes. On souligne que certaines d'entre elles font preuve de beaucoup d'agentivité durant leur parcours et aussi que finalement, leur migration, et c'est parfois le but d'ailleurs de cette migration, ça devient une source d'empowerment. Donc elles gagnent en puissance grâce à la migration. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle forme prend cette agentivité ?
Alors, je pourrais évoquer, par exemple, les mobilisations de femmes migrantes qui ont été étudiées récemment avec l'utilisation croissante de l'agentivité qui a fait se développer des travaux sur le sujet. Donc, à partir des années 2000, déjà, il y a des travaux sur ces sujets. Donc, il y a une historienne, Claudie Lesselier, qui a collecté des archives d'associations de femmes immigrées mobilisées dans ces années-là. Donc, il était une période propice aux mobilisations. Donc il y avait plusieurs collectifs, des femmes immigrées politisées aussi, des réfugiés d'Amérique latine notamment, la coordination des femmes noires également. Ensuite, dans les années 80, avec toutes les mobilisations contre le racisme, des descendants d'immigrés dans les quartiers populaires. Donc là aussi, il y a des femmes qui s'impliquent dans la marche pour l'égalité contre le racisme. Il y a des maires aussi qui se mobilisent, des maires immigrés qui dénoncent les violences racistes et policières, les meurtres de leurs fils. Donc ce sont les maires de la place Vendôme, donc en référence à la mobilisation argentine en 84, qui demandent à rencontrer Badinter et qui dénoncent une justice à deux vitesses. Ensuite, il y a eu toutes ces grèves depuis une vingtaine d'années, des femmes de chambre dans l'hôtellerie, et qui ont commencé déjà il y a 20 ans, des dizaines de mobilisations. La dernière a été très mise en exergue dans les médias, donc on voit un changement de regard, puisque ça faisait 20 ans qu'il y avait ces luttes, et là, la dernière a été très médiatisée, et qui montre l'importance de ces mobilisations, et des femmes qui demandent de meilleures conditions de travail dans des secteurs où particulièrement c'est la sous-traitance qui crée des conditions de travail parallèles et absolument abominables.
Oui, alors pour compléter le tableau, peut-être je pourrais parler de la part des femmes dans les mouvements des sans-papiers dans les années 90, qui était extrêmement forte. Je pense à la figure notamment de Majidane Cissé, qui est décédée récemment et qui a été une figure vraiment extrêmement leader de ce mouvement-là des sans-papiers autour de 1996. Et puis aussi parler des grèves des prostituées chinoises, qui ont été documentées par les collègues sociologues, qui ont montré comment elles se mobilisaient en fait à travers des actions symboliques aussi. Elles ont pris des balais pour nettoyer les trottoirs, pour lutter contre la stigmatisation de leur travail et aussi les mesures de pénalisation des clients qui avaient pour effet de précariser en fait aussi leur travail. Donc il y a énormément de mobilisation. La vraie question, mais elle ne touche pas seulement la question des femmes migrantes, c'est une question plus générale qu'a trait à l'histoire des femmes, c'est pourquoi pendant si longtemps ces mobilisations des femmes ont été invisibilisées dans les recherches, dans le débat public sur ces questions-là. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est vrai que les mobilisations féminines peuvent prendre des formes spécifiques. Et donc parfois, on en oublie qu'elles se mobilisent aussi, même si c'est parfois différemment que les hommes.
Exactement. Et pour parler d'histoire, c'est vrai que dans le cadre de mes recherches, j'ai trouvé trace de grèves d'Italiennes qui avaient des conditions de travail extrêmement précaires dans les années 20 et 30, qui étaient des migrantes temporaires venant travailler dans l'industrie textile. Et donc c'était des Arméniennes recrutées dans des camps de réfugiés, des Grecs, des Italiennes, et qui ont mené des grèves contre des conditions de travail, des salaires trop bas, et également aussi des revendications en lien avec leurs conditions migrantes. Par exemple, les clauses de contrat qui n'étaient pas respectées. Le patron disait « je prends en charge le trajet du voyage » et finalement il était retiré sur le salaire. Donc des mobilisations qui n'ont pas été retenues dans ces sources-là. Personne n'en a parlé, pourtant elles sont bien présentes. Donc voilà, il y a toute une mémoire qui n'a pas été transmise de ces mobilisations-là qui peuvent être très anciennes.
Linda, tu me sers sur un plateau ma transition vers la partie pédagogique. Alors Clémentine, faisons un petit point sur la présence du genre et des femmes dans les questions migratoires, dans les programmes d'histoire et de géographie.
Alors, la question du genre n'est pas dans les programmes d'histoire et de géographie, on le sait. Par contre, la question des migrations, elle est assez largement explorée dans les programmes du secondaire, que ce soit au collège ou au lycée, en histoire comme en géographie, mais aussi en EMC ou encore dans certains enseignements de spécialité du lycée. Donc, si on prend le collège, Linda en a parlé au tout début de notre discussion, les migrations sont évoquées dès la sixième, avec le fameux premier thème sur la longue histoire de l'humanité et des migrations, où le programme demande de parler des premières grandes migrations de l'humanité qui permettent d'aider les élèves de sixième à se repérer sur des cartes. Néanmoins, le programme mentionne bien qu'il faut traiter rapidement de cette thématique, mais ça permet quand même d'ancrer le sujet sur la longue durée. Ensuite, la question propre de la migration est évoquée plutôt en quatrième, autant en géographie qu'en histoire, et c'est intéressant de faire du lien entre les deux thèmes. Donc le second thème du programme de géographie de quatrième porte spécifiquement sur les mobilités humaines transnationales. Donc il faut poser la question de la diversité des motivations de ces migrations, de la question de l'actualité aussi de ces migrations, pour que les élèves puissent comprendre cette géographie des migrations qui n'est pas centrée seulement sur l'Europe, c'est bien le programme qui l'écrit, de même qu'il faut nuancer pour bien expliquer que les mouvements ne sont pas uniquement des mouvements sud-nord. Ce qui est intéressant avec ce thème de géographie, c'est qu'il y a vraiment une liberté pédagogique qui est intéressante pour nous, puisqu'on doit choisir nos études de cas. Elles ne sont pas imposées par le programme. Et donc bah, là, il faut bien s'engouffrer dans la brèche et ne pas hésiter à utiliser des exemples de migration féminine. On doit faire le lien avec le thème d'histoire de ce même programme de quatrième qui nous permet d'interroger les migrations au XIXe siècle, centré plutôt sur l'Europe et la traversée de l'Atlantique. Voilà, en parlant des questions de croissance démographique, d'arrivée en Amérique, etc.
Et c'est vrai que c'est le moment où on va pouvoir parler de l'immigration des femmes irlandaises dont tu nous as parlé tout à l'heure, Linda.
Donc toujours en quatrième, on peut encore s'approprier le tout dernier chapitre du thème 3 d'histoire qui s'intéresse aux femmes. Donc pourrait-on encore revenir sur l'aberration de faire un chapitre et les femmes alors à la toute fin d'un programme auquel on n'arrive jamais, hein, on ne le dira pas mais je râlerai toujours. Néanmoins, on peut quand même aborder la question migratoire si on arrive à atteindre ce chapitre-là de l'année de quatrième et toujours faire le lien avec le chapitre de géographie. Puisque, pour le dire rapidement, c'est quand même un thème qui demande de se concentrer spécifiquement sur les conditions féminines dans la société du 19e siècle. Et donc là, on peut commencer à questionner l'immigration au début de la Troisième République ou les femmes immigrées, mais c'est peut-être probablement plutôt en lycée qu'on va pouvoir développer un peu cette question. On pourrait aussi, toujours en collège, profiter des programmes d'histoire de troisième et notamment sur l'enseignement des deux guerres mondiales pour aborder justement les questions des migrations féminines dans ce contexte particulier, qui est la première moitié du XXe siècle. Donc, ça c'est pour le collège. Mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à faire, notamment en quatrième. Mais pour les collègues de lycée général et technologique, on n'est pas en reste non plus. Il existait avant la réforme en seconde générale et technologique un chapitre introductif qui parlait spécifiquement de l'immigration européenne vers l'Amérique du Nord. Ce chapitre introductif n'est plus du tout au programme. Il faut donc attendre d'arriver au troisième thème de géographie. Mais alors là, c'est un thème sur lequel on peut effectivement se faire plaisir. C'est un thème, là aussi, qui parle des mobilités généralisées. Et il y a une des études de cas possibles qui est le bassin méditerranéen comme bassin migratoire. Et là, il y a énormément de choses à dire. On peut du coup mobiliser des études de cas qui soient originales, je dis originales du point de vue des manuels scolaires, et donc qui seraient cette fois centrées autour des migrations féminines. Donc c'est là où on va pouvoir mobiliser des extraits de l'ouvrage de Camille. En fait, il y a plein d'extraits, on vous enverra vers la bibliographie et l'article sur le site internet dédié à cet épisode pour vous aider justement à trouver des documents pour créer ces études de cas. Toute la difficulté sera de ne pas trop en choisir pour ne pas surcharger les corpus documentaires. Néanmoins, Linda ne restera pas non plus à la traîne puisqu'on peut toujours parler d'émigration en histoire. En première plutôt, sur le chapitre 2 du thème 2, particulièrement sur l'industrialisation et les transformations économiques et sociales de la France. On peut aussi en parler dans le thème 3 qui se concentre sur la Troisième République et l'Empire colonial. Les objectifs sont clairement formulés dans le programme, qui pose à la fois la question de l'immigration et la place des étrangers, mais aussi l'évolution de la place des femmes dans la société. On peut voir éventuellement gagner un peu de temps en traitant les deux en même temps. Pourquoi pas ? En ce qui concerne la terminale, c'est à peu près la même logique que pour la classe de troisième. On peut profiter de l'étude de la montée des totalitarismes et de la Seconde Guerre mondiale, ou encore du thème de géographie lorsqu'on enseigne l'Union européenne, si on arrive jusque-là. Donc, toujours en lycée, cette fois pour les enseignants qui s'occupent de la spécialité, donc l'âge de GSP, le programme de première âge de GSP a tout un thème sur la notion de frontière, sur lequel là on peut vraiment également se faire plaisir pour travailler ce moment en fait du passage de la frontière. On peut aussi faire des liens avec nos collègues de langue, notamment en LLCE ou en AMC, où là il y a des choses à faire aussi avec la question de l'arrivée. Et encore qu'on pourrait, comme disait Camille, questionner ce qu'est cette arrivée. Et pour finir, bien sûr, l'EMC est un cadre privilégié, je pense, pour travailler cette question. en faisant des projets à l'échelle d'un trimestre ou d'un chapitre. Là, c'est peut-être le moment de mobiliser des documents un petit peu plus originaux, entre guillemets, avec des films ou des bandes dessinées qui peuvent servir de base hein, autour d'un projet sur les questions migratoires et de la place et du sort des femmes qui migrent. Pour finir également, notons que le concept de frontière est actuellement au programme de géographie du CAPES. Il l'est encore au programme de l'agrégation interne. Et on a également l'agrégation externe d'histoire qui, elle, pose une question intéressante en histoire moderne, intitulée « Communauté et mobilité en Méditerranée de la fin du XVe au milieu du XVIIIe siècle ». Donc, on rappelle, à chaque fois qu'il y a une question comme ça qui arrive au programme des concours d'enseignement, on a souvent une bibliographie qui s'enrichit, soit parce que c'est l'occasion de réactualiser la recherche, soit tout simplement parce qu'on peut bénéficier d'ouvrages qui synthétisent l'avancée de la recherche sur ces différentes thématiques. Et donc, bien, c'est bien l'occasion d'en profiter.
Oui, c'est l'occasion aussi de montrer, pour les pouvoirs publics, de montrer qu'il faut s'emparer de ces questions et peut-être y mettre du genre.
Peut-être. Donc là, j'avais une question pour Linda et Camille. Est-ce que vous auriez des témoignages ou des films ou des bandes dessinées, comme je le disais, qui seraient intéressantes à mobiliser quand on veut enseigner ces questions migratoires au collège ou au lycée ?
Oui, pour ce qui est des ressources, il y a l'encyclopédie d'histoire nouvelle de l'Europe avec des notices. Donc il y a un certain nombre de notices sur genre et migration. Donc là, je viens d'en écrire une sur regroupement familial qui va être bientôt publiée, mais il y en a d'autres de Delphine Diaz, Philippe Rigiel, Manuela Martini. Donc je vous invite à regarder ces notices très bien faites, en fait des synthèses un peu des recherches actuelles. Il y a aussi bien sûr le manuel pour une histoire mixte de Mnemosyne chez Belin, où j'avais écrit un chapitre justement sur les Irlandaises, donc sur les migrations 19e, puisqu'on collait au programme scolaire. Donc comme cette question est encore à l'ordre du jour, il y a un chapitre là-dessus dans ce manuel.
Moi, j'avais écrit un petit texte dans l'Europe des femmes sur la question de Lampedusa. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte s'appuie sur des textes, en fait, un texte de dramaturge, en fait, qui porte justement, qui s'appelle Lampedusa Beach, et qui est un texte de théâtre qui porte sur Lampedusa avec un regard au féminin. En fait, la littérature, le théâtre, je pense au livre de Louis-Philippe d'Alembert, Mur Méditerranée, je pense aussi. Au travail de Marie Ndiaye avec les femmes puissantes. Enfin, il y a beaucoup de travaux, en fait, de fiction qu'on peut utiliser. Le film Hope aussi de Boris Lochkine, un très beau film. Alors, assez violent.
Très dur.
Peut-être,
hein.
Voilà, il faut peut-être sélectionner les scènes parce que c'est un film difficile quand même pour...
Très, très chouette.
Donc, sur la question de la cartographie, il y a beaucoup de travaux qui permettent d'avoir accès à des cartographies des migrations. Je pense notamment au blog de Nicolas Lambert et Françoise Bauken. Sur les approches genrées, il y a moins de choses, mais effectivement, il y a quelques planches dans l'atlas des migrants en Europe, de Migre-Europe, et notamment dans la dernière version. Et puis ensuite, j'aimerais encourager les enseignantes et les enseignants à aller au Musée national de l'histoire de l'immigration, dont la nouvelle exposition permanente a ouvert il y a quelques mois, et dans laquelle on a essayé, j'y ai travaillé avec des historiens et des historiennes, d'introduire davantage la dimension du genre et des femmes. Et donc, on va retrouver des figures féminines des migrations extrêmement diverses, puisque c'est une exposition d'histoire, une exposition chronologique, au fil des différentes périodes étudiées. Je pense par exemple à la comtesse Cristina di Belgiojoyo, j'étais sûre que j'aurais du mal à la prononcer, hein, qui a été étudiée par Delphine Diaz notamment, hein. Donc exilée politique en France, qui a ouvert ce salon, qui a vu circuler tous les exilés artistes de l'époque dans les années 40, je crois. Hein. Voilà, on parle aussi des travailleuses polonaises, on parle des migrantes internes, bretonnes et autres, en France au 19e siècle. On parle aussi... dans cette exposition des bonnes espagnoles dans les années 60 à Paris, des mobilisations des femmes de la place Vendôme dont tu nous as parlé, Linda, il va être question des femmes dans les mouvements des sans-papiers. Enfin, on a essayé, en fait, dans cette exposition d'histoire, de rappeler que, justement, la féminisation des migrations n'est pas du tout quelque chose de récent et qu'il y a toujours eu des femmes et des femmes mobilisées en migration.
Alors moi j'aurais pas mal de ressources à donner aussi qui sont tout à fait utilisables avec les élèves. Alors déjà en cartographie, c'est vraiment intéressant d'utiliser les cartes sensibles et puis tout ce courant cartographique assez récent en fait qui essaye De faire des cartes autrement en intégrant des données de genre et finalement des données qui ne se veulent pas nécessairement objectives. Et donc on a des cartes tout à fait passionnantes, je pense, à utiliser avec les élèves. Je pense aussi qu'on peut utiliser d'autres types de ressources, par exemple les podcasts, qui sont une ressource intéressante. Il y en a plusieurs qui abordent la question du genre. Et étonnamment, beaucoup de podcasts sur les migrations parlent des femmes. Donc on peut les utiliser soit en entier, en cours inversé par exemple, soit par morceaux en classe. Il y a souvent des témoignages oraux, donc c'est très intéressant de les utiliser. Et puis, comme disait Camille, il y a le cinéma. Et dans le cinéma, alors le film Hope, qui est sans doute un des plus durs qu'on puisse trouver, et des plus réalistes sur les migrations, mais il y a aussi des films documentaires, par exemple sur Lampedusa. Il y a aussi des films de fiction qui sont un petit peu moins crus que Hope. Il y a deux jours est sorti un film sur le sujet qui s'appelle La tête froide de Stéphane Marchetti, qui raconte aussi l'histoire d'une passeuse dans les Alpes. Donc en fait, on voit que la question des migrations est, avec cet angle de genre, est quand même pas mal abordée par le cinéma. Ça peut être une ressource vraiment intéressante, quel que soit le niveau des élèves que vous avez.
J'aurais peut-être quelque chose à ajouter encore. C'est que j'ai été amenée à participer à pas mal d'ateliers en fait en classe, où les élèves ont été amenés, s'ils le souhaitaient, ce n'était pas obligatoire, à travailler sur des trajectoires familiales. En partant de textes, justement, tels que des textes issus de mon livre, pour aller creuser des histoires de trajectoires migratoires familiales. C'est extrêmement intéressant. C'est délicat, c'est sensible, bien sûr, parce que certains ont des histoires migratoires très fraîches et parfois douloureuses. Mais j'avais envie de raconter cette toute petite anecdote d'une jeune fille qui a parlé avec sa mère, en fait, de son histoire migratoire dont elle n'avait jamais parlé, en fait. Et donc, elle a retracé la trajectoire migratoire de sa maman, qui était assez douloureuse et assez complexe. Et c'est, la discussion autour de ça, enfin, cette restitution et cette discussion étaient extrêmement riches. Donc, ça peut être formidable. Évidemment, c'est délicat et il faut voir quel est le contexte dans lequel on peut faire ce genre de travail. Mais je pense que ça peut être aussi une ressource.
Ça peut même aboutir à un travail cartographique, en fait.
Absolument.
Et Linda, toi, qu'est-ce que tu nous conseillerais ?
Oui, ben, c'est vrai que le cinéma, c'est quand même assez intéressant comme ressource en termes d'identification, de sensibilité à des trajectoires. Et donc, c'est vrai que j'enseignais aussi en lycée professionnel et j'ai fait raconter le parcours migratoire d'un jeune homme qui était dans ce cours et qui venait d'Irak, qui était une famille yézidi. Et du coup, il a raconté son histoire avec une carte. On avait mis Google, etc. Il a raconté sa venue. Et c'est vrai que les autres élèves étaient absolument stupéfaits, en fait, de ce parcours qu'il avait vécu. Et ça a été vraiment... il a été vu autrement, ensuite, quand il a pu raconter son histoire. Donc, c'était vraiment... je pense que ça, c'est une très bonne idée, effectivement. L'ayant pratiqué, c'est absolument essentiel, en fait, que des personnes racontent leur trajectoire à d'autres, puisque c'est des camarades de classe. Et ça fait voir l'immigration autrement.
Oui, je voudrais ajouter un truc, c'est que effectivement, il faut penser à cette dimension. On a des élèves qui ont des vécus parfois douloureux, et c'est vrai que quand on va aborder ces questions et quand on veut finalement l'aborder comme nous le proposons avec des analyses de genre et en travaillant sur des témoignages et des vécus, eh bien, on peut aussi parfois heurter ou on peut amener des élèves à finalement des parcours douloureux qu'ils ont pu vivre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est pas pour autant, je pense, qu'il faut s'en priver. Mais voilà, pour certains de nos élèves, on est dans du présent.
Oui, une solution qui avait été trouvée par un collègue avec lequel on avait travaillé, c'était de proposer de laisser le choix. C'est-à-dire, vous pouvez travailler ou sur une histoire familiale ou sur une histoire que vous allez recueillir quelque part dans un livre. Et ça permet une grande liberté et à chacun de se saisir après de la question.
Oui, c'est vraiment important, ça, la possibilité de laisser le choix aux élèves de s'exprimer ou pas. Il y a aussi une mention alors, que j'avais déjà faite dans un cadre un petit peu différent, qui était plutôt histoire et mémoire, mais l'idée de demander en gros aux élèves de préparer et de faire une interview d'un parent ou d'un grand-parent qui a une histoire à raconter. Et ça permet de... Voilà, s'il y a des histoires trop sensibles, trop compliquées ou pas de volontaires dans les élèves... Ça peut être aussi une manière d'aller faire de la géographie du sensible, en fait.
Exactement.
Ouais, et pour la façon de procéder, là, on vous recommande, comme on le fait à chaque fois, comment est-ce qu'on fait du genre, que ce soit en histoire ou en géographie. Eh bien, on diversifie les documents, on introduit de la comparaison. Et l'important, hein, c'est que les hommes et les femmes soient représentés et que les relations qu'ils entretiennent ou la spécificité de leur parcours soient interrogées. À partir du moment où vous respectez, on va dire, ces règles de base, vous pouvez vous y prendre un peu comme vous voulez.
C'est ça. Et on n'a pas mentionné dans les sources, mais tout le chapitre sur la vie de Julienne de l'ouvrage de Camille est regorge en fait, de passages qu'on peut choisir comme extrait pour illustrer
pour la géographie. Oui. Alors, il est temps pour nous d'arrêter ce passionnant entretien qui aurait pu durer encore de nombreuses heures. On va remercier nos deux invités, Linda Guéry.
Oui, merci beaucoup pour la discussion. C'était très agréable et intéressant et j'espère que ça va donner des idées aux enseignantes et aux enseignants.
Et merci beaucoup à Camille Schmoll.
Au revoir et merci de votre invitation.
Merci encore Cécile, Linda et Camille pour ce très riche épisode empreint d'actualité. Comme toujours, vous trouverez une bibliographie détaillée sur notre site internet qui vous aidera à aborder les migrations féminines dans vos cours d'histoire et de géographie. Ce podcast vous est présenté par l'association Mnemosyne pour la promotion de l'histoire des femmes et du genre avec à la production Cécile Béguin, à la réalisation Noémie Mur et à la lecture des textes Clémentine Letellier. Merci encore au studio La Poudre, situé à la Cité Audacieuse, de nous permettre d'utiliser leurs locaux. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à adhérer à notre association grâce à notre portail Hello Asso. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site. À bientôt !